Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
On arrive à un paragraphe qui s'intitule « L'Église consommée dans la gloire » et voilà ce que dit le numéro 769. « L'Église n'aura sa consommation que dans la gloire céleste ». Est-ce que, je joue un peu sur les mots, mais est-ce que ça veut dire qu'on aura une boisson en arrivant au ciel, on pourra avoir sa consommation? Qu'est-ce que ça veut dire cette consommation?
Oui, alors le mot, évidemment, consommation doit être pris au sens spirituel du terme, hein, c'est-à-dire l'achèvement. Hein. Qu'est-ce qui est achevé? Eh bien, c'est tout ce que Dieu a fait dans son dessein d'amour bienveillant pour les hommes, et le moment de l'achèvement par excellence, c'est ce que dit le Christ sur la croix. Donc Jean 19, 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « c'est achevé » et inclinant la tête, il remit l'esprit. Mmh. C'est ça qui est vraiment, quand on dit la consommation, c'est ça. Hein. C'est-à-dire, Jésus a déclaré « tétélestai », tout a pris sa fin, finalité. Hein. Tétélestai, c'est un mot grec qui se dit en un seul mot. Alors parfois on traduit tout est achevé, mais le mot tout n'y est pas, mais il l'est intuitivement, c'est-à-dire tout est récapitulé dans ces mots, c'est achevé, l'œuvre de Dieu est achevée, l'œuvre que Dieu avait confiée à Jésus sur la terre est totalement achevée, hein, et c'est là où on voit la gratuité des sacrements, puisque on le disait une autre fois, il y a le coup de lance qui pénètre le cœur de Jésus, d'où sort le sang et l'eau, et qui sont le symbole des sacrements, la gratuité totale des sacrements, puisque c'est au-delà de l'œuvre de Jésus, pratiquement, hein, puisque Jésus est déjà mort corporellement quand le coup de lance l'atteint. Donc il y a une sorte de surgratuité qui est donnée dans ce signe du cœur transpercé. Et pourtant, déjà, tout est achevé. Quand Jésus dit « c'est achevé », inclinant la tête, il remet l'Esprit. Certains pères ont vu l'Esprit Saint qui était donné aux apôtres. Donc il y a comme une concomitance entre cette œuvre que le Père avait donnée au Fils à réaliser et le don de l'Esprit Saint. Et cet Esprit qui prolonge en quelque sorte ce que Jésus a à réaliser sur la terre. Et l'œuvre de l'Église, c'est l'œuvre de, dans le fond, de cette prolongation du souffle de l'Esprit au milieu de nous.
Ça veut dire que l'Église n'est pas parfaite, alors actuellement elle n'est pas achevée.
Alors l'Église n'est pas achevée, elle est l'image du royaume céleste définitif, elle est déjà, je dirais, instituée, elle est déjà dans une certaine perfection, mais elle n'est pas encore dans sa totalité. Quand est-ce qu'une société est dite parfaite au sens, je dirais, humain? Eh bien, c'est quand il y a une autorité, et nous avons l'autorité de Pierre et des apôtres, des successeurs des apôtres, des prêtres, tout la hiérarchie, c'est l'autorité. Il y a un gouvernement, en quelque sorte. Deuxièmement, quand il y a une législation, et quelle est la législation de l'Église? Elle est donnée par la loi nouvelle, et le code de droit canonique essaie, par ses remises à jour régulières, d'actualiser cette loi nouvelle, qui est dans le sommet, bien sûr, l'expression de la charité, comme dit le dernier canon du code de 1983, c'est la charité, finalement, qui meut, c'est la législation. Et puis, il faut, à côté de cette loi, eh bien, il faut aussi d'autres éléments. Il faut une structure, je dirais, de gens qui puissent juger aussi les choses, qui puissent agir d'une manière pénale s'il y a des fautes. Et le code de droit canonique, là aussi, donne toute une part à cette possibilité qu'il y a, par exemple, de remettre de l'ordre, de reprendre des gens qui auraient abusé, des gens qui auraient dévié, etc. Nous avons tout un code donc législatif, et dans un diocèse, il y a l'évêque qui dirige, mais il y a aussi tous ces prêtres qui agissent, tous ces ministres qui agissent, et puis il y a une officialité pour pouvoir reprendre des délinquants ou des gens qui ont commis des fautes ou qui ont commis des erreurs, parce que tout n'est pas de l'ordre du punitif, mais peut-être seulement de l'ordre du remise en lumière de quelque chose qui a été mal fait à l'origine.
Donc tu dis une société doit avoir une structure, une loi et...
Et une des possibilités de juger.
Ah oui,
voilà, d'accord. C'est ça, donc une législation, un pouvoir, je dirais, à la fois de gouvernement, un pouvoir législatif et un pouvoir judiciaire.
Ah, oui. Et ce qui est écrit ensuite au 769, c'est que l'Église avance dans son pèlerinage, parce qu'on est comme sur un pèlerinage vers le ciel, à travers les persécutions du monde et les consolations de Dieu. Alors les persécutions du monde, on les voit, on les connaît, hein, on en vit tous les jours. Et les consolations de Dieu, est-ce qu'on n'a pas oublié cette partie-là? Est-ce que Dieu n'oublie pas ça?
Alors, il suffit de lire la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 1, que je recommande à tous les auditeurs, parce que saint Paul ne cesse de parler de la consolation de Dieu. Ah oui. Et je crois que c'est un très très beau passage qu'il ne faut pas manquer, et essayer de s'imprégner de cette première épître aux Corinthiens, deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 1, et de demander au Seigneur, les consolations de Dieu. Je vous lis le passage que saint Paul donne à l'épître aux Corinthiens, aux chrétiens de Corinthe, donc qui devaient être dans la tribulation. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, écrit saint Paul, qui nous console dans toutes nos tribulations, afin que par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu, nous puissions consoler les autres en quelque tribulation que ce soit. On appelle ça, donc, selon le beau mot, de sorte de possibilité de se transmettre, de s'aider les uns les autres. Qui est dans la peine, peut aider celui qui découvre à peine les rudiments du christianisme. On peut être source de consolation pour les autres par les souffrances que l'on endure, dans le fond. Il y a comme des temps de joie dans la consolation et des temps de peine dans la tribulation. Dans le fond, c'est cette alternance que saint Paul essaye de faire comprendre aux Corinthiens entre tribulation et consolation. La consolation, c'est la joie. C'est la joie de l'esprit.
De l'esprit, oui. Et donc, on a tendance à voir beaucoup les persécutions, parce que les médias nous les présentent chaque jour, mais peut-être qu'il faut qu'on fasse l'effort chacun, le soir avant de s'endormir, de repérer les consolations de la journée données par Dieu, non ?
Oui, d'ailleurs, un beau texte spirituel qui est lu par beaucoup de grands religieux au cours des âges, qui est l'imitation de Jésus-Christ, dit que Jésus vient souvent dans la journée nous visiter, soit par la tribulation, c'est-à-dire l'épreuve, la tentation souvent, et puis la consolation. Donc il faut effectivement que nous mettions, je dirais, au diapason de ces mouvements spirituels, tels que saint Paul les décrit, de même, en effet, que les souffrances du Christ abondent pour nous, ainsi par le Christ abonde aussi notre consolation. Sommes-nous dans la tribulation, c'est pour votre consolation et salut. Sommes-nous consolés, c'est pour votre consolation qui vous donne de supporter avec constance les mêmes souffrances que nous endurons, nous aussi. Et notre espoir à votre égard est ferme. Nous savons que, partageant nos souffrances, vous partagerez aussi notre consolation. Il y a donc une sorte de réciprocité extraordinaire, de possibilité dans le corps mystique qui est marqué, effectivement, comme dit saint Paul dans l'épître aux Éphésiens, l'épître aux Colossiens, de quantité de ligaments, de liens. Et ces liens permettent ce profit hein, que nous avons de ceux qui souffrent à notre place, qui offrent à notre place. Hein. Thérèse de l'Enfant Jésus disait « Je suis rentré au Carmel essentiellement pour prier pour les prêtres ». C'est-à-dire de telle sorte que les souffrances qu'elle recevrait au Carmel puissent profiter au sacerdoce. Donc le corps mystique, je dirais, est sans cesse en action-réaction. Il y a ces tribulations, ces épreuves, mais en même temps, il y a ces consolations du ciel qui sont octroyées par la prière des uns et des autres.
J'espère que les consolations sont proportionnées aux épreuves, parce qu'au 769, on lit même que la consommation de l'Église ne se fera pas sans de grandes épreuves. Mais j'imagine qu'il y a des grandes consolations qui seront aussi accordées pour nous porter jusqu'à cette consommation de l'Église. Sinon, le risque, c'est que j'imagine que tout le monde parte en disant on ne veut pas de grandes épreuves.
Ben oui, mais les consolations sont si bonnes. Hein. Saint Paul dit en 2 Corinthiens 7, 4, « J'ai grande confiance en vous, je suis très fier de vous, je suis comblé de consolation. Ah oui. Je surabonde de joie dans toute notre tribulation. » Donc, il ne faut surtout pas les opposer et se crisper sur les tribulations. Ben, les consolations du ciel sont toujours beaucoup plus grandes. Et d'ailleurs, au moment des martyrs de Rome, les Romains, qui étaient encore des païens, étaient étonnés de voir le sourire des chrétiens martyrisés. On en avait fait des torches de feu, et bien ils étaient là, souriants encore, parce qu'ils étaient inondés de la consolation du Christ. Donc il faut bien comprendre que celui qui console les humiliés, dit saint Paul, Dieu nous a consolés. Cette consolation, c'est nous-mêmes, dès que nous voulons bien, accepter cette réciprocité des mérites, cette possibilité que nous avons les uns avec les autres de nous aider.
Merci, frère Edouard.
Merci, à bientôt.
À bientôt.